Bienvenue dans le débat. Il est consacré à la visite d'État d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni. Une visite d'État de 3 jours qui vise à marquer le rapprochement des deux pays 5 ans après le Brexit. La première visite d'État d'un dirigeant européen depuis justement ce fameux Brexit. Au château de Windsor, Emmanuel Macron a été reçu en grande pompe par la famille royale pour la première étape de sa visite. Et cette première journée à Londres est marquée par des symboles plus politiques. Emmanuel Macron qui s'est adressé aux parlementaires britanniques. Les Européens n'abandonneront jamais l'Ukraine, a lancé le président français qui a aussi appelé à un cessez-le-feu sans condition et une solution politique pour la Palestine. Un sommet franco-britannique va se tenir jeudi à Downing Street avec le Premier ministre Keir Starmer. Les deux leaders vont co-présider en visioconférence au sein de la base de Northwood, une réunion des pays de la coalition des volontaires qui veut soutenir l'Ukraine contre l'agression russe. Au menu donc de ces 3 jours, des discussions sur la défense mais aussi l'immigration. L'immigration, la question qui fâche. Peut-on parler alors de reconvergence entre les deux pays 5 ans après le Brexit? Du côté de la défense, la coalition des volontaires face à la Russie peut-elle être efficace? Sur la question de l'immigration, quelles peuvent être les avancées? Ça fait partie des questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Pierre Vimon. Bonsoir. Merci d'être avec nous, monsieur l'ambassadeur, ancien ambassadeur de France auprès de l'Union européenne, également auprès aux États-Unis, ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Vous étiez aussi secrétaire général du Service européen pour l'action extérieure à Bruxelles. Vous êtes donc un grand diplomate. Merci d'être avec nous ce soir. Catherine Mathieu, bonsoir. Vous êtes économiste à l'OFCE, spécialiste du Royaume-Uni. Bienvenue à vous. Catherine Norris-Trent est avec nous, franco-britannique et grand reporter à France 24. Bienvenue, Catherine. Nous avons en direct de Londres Quentin Peel, journaliste indépendant, ancien rédacteur en chef pour les affaires internationales du Financial Times. Merci d'être avec nous ce soir.
Bonsoir.
Cette première journée est marquée donc par ce discours d'Emmanuel Macron aux parlementaires britanniques. Les deux chambres étaient réunies. On l'écoute, le président français.
Nous partageons la même vision d'un ordre mondial, basé sur la loi de la justice et le respect de l'intégrité territoriale. Un ordre qui est aujourd'hui en danger tous les jours, puisque nous témoignons des attaques directes à nos démocraties. Le retour de la guerre sur notre continent, la résurgence d'impulsions impérialistes et la violation des règles internationales par des pouvoirs déstabilisants qui essayent de diviser le monde à leur avantage.
Pierre Vimon, ça c'était le début du discours d'Emmanuel Macron devant les parlementaires. Alors, avant de revenir sur le fond, cette première visite d'État d'un président européen depuis le Brexit au Royaume-Uni, Macron invité d'État avant Trump, est-ce fortuit?
Je ne crois pas tout à fait, parce qu'il se trouve que j'étais à Londres il y a 3 jours et tous mes interlocuteurs ont beaucoup insisté sur ce point, qu'il était important d'avoir, avant la visite du président Trump, la visite d'un chef d'État ou d'un chef de gouvernement européen pour bien marquer l'importance et les liens de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni avec l'Europe.
Alors qu'en général, c'est quand même le lien transatlantique, non? Oui. Le plus fort. Donc c'est une petite, pas une claque à l'égard de Trump, mais enfin une petite...
Pas vraiment une claque, mais je crois qu'aussi à la fois le roi et le Premier ministre savent que Trump n'est pas très populaire en Grande-Bretagne. Sa visite, la visite qu'il avait effectuée pendant son premier mandat, c'était pas très bien passé parce que l'opinion publique anglaise était très remontée contre lui. Et tout indique que c'est toujours la même chose. Et donc ce n'est pas un visiteur attendu avec tout le plaisir qu'on pourrait attendre.
Cela dit, le cas avec Emmanuel Macron.
Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que ce soit le Français qui vienne le premier, parce que la relation franco-britannique a toujours été une relation ambiguë, faite d'admiration, mais aussi de rivalité. Et donc, c'est quand même intéressant que le choix se soit porté sur le chef d'État français pour cette première visite d'un Européen depuis le Brexit.
Catherine Mathieu, c'est la suite d'un rabibochage tout de même qui a démarré avec déjà la visite d'État du roi Charles III à Paris, même pas seulement à Paris d'ailleurs, je crois que c'était 3 jours, et qui a suivi aussi d'ailleurs, qui a été suivi ensuite par celle du Premier ministre conservateur Rishi Sunak, tout ça dans cette continuité.
Oui, on voit bien que depuis plusieurs années, après
tous ces déchirements qui ont eu lieu autour du Brexit et le fait que la France ait une position très dure dans toutes les négociations sur le Brexit, c'était vraiment la France qui était la plus dure vis-à-vis des Britanniques pour négocier la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et on a vu effectivement depuis plusieurs années que la France invitait, comme vous venez de le dire à l'instant, Rishi Sunak, le roi Charles, Keir Starmer, avant qu'il soit Premier ministre. Et donc il y a ce souhait, je pense, de recréer des liens entre les deux côtés de la Manche, sachant qu'on est dans une situation très particulière aujourd'hui, avec cette guerre en Ukraine et le fait que la France et le Royaume-Uni soient décidés à mener une alliance pour soutenir les Ukrainiens face à la Russie.
Face à la Russie, Catherine Norris-Trent, vous êtes d'accord? Ils se sont déjà vus plusieurs fois, Emmanuel Macron et le roi Charles III. On a l'impression qu'il y a tout de même un lien entre ces deux personnalités.
Oui, il semble, oui, parce que Charles, le roi, il est connu pour être francophile, il n'est pas français, il aime bien la France, il s'est déjà exprimé là-dessus. Donc, je pense qu'il y a tout à fait des relations très cordiales, cette entente cordiale qui s'est recréée entre la France et la Grande-Bretagne. Et quelque part, parmi la classe politique britannique aussi, il y a un soulagement, en fait, d'avoir, enfin, après les années Brexit, un gouvernement avec qui ils peuvent travailler, en fait. C'est fini les insultes, excusez-moi, des années de Boris Johnson et de Liz Truss qui hésitaient à classifier Emmanuel Macron d'ennemi ou d'ami quand on lui a posé la question. Là, maintenant, les choses se sont... Le ton s'est nettement amélioré.
On souhaite l'apaisement, finalement,
oui,
en Bretagne.
Il y a un vrai changement de ton. Les scènes qu'on voit là auraient été inimaginables il y a quelques années, quand la guerre du Brexit, la guerre froide... C'était dans les unes de tous les journaux. Là, maintenant, quand même, il y a un soulagement, je dirais, assez généralisé.
Quentin Peele, invité au château de Windsor, hein, donc le chef de l'État français, il a reçu tous les honneurs, finalement, de la famille royale. Est-ce aussi, je vous repose la question, mais un message pour Donald Trump?
Oui, je crois bien. En effet, je crois que je vois un tout petit peu la main du roi Charles pour ce symbolisme, mais quand même aussi, on avait besoin comme d'un chef d'État pour venir avec une visite d'État comme ça. Alors, par exemple, le chancelier Friedrich Merz ne serait pas la même chose. Alors, je crois que c'est à cause de ça. Et deuxièmement, c'est à cause du fait que la sécurité et la défense et la question de l'Ukraine sont vraiment au cœur de ce visite. Et la chose la plus importante, et ce que le président Macron a très clairement souligné avec son discours dans le Parlement.
Quand vous dites que ce ne serait pas la même chose avec le chancelier allemand, pourquoi on préférait le président français à Merz?
Mais non, je crois que le chancelier allemand est tout neuf et vraiment, il pourrait venir pour un visite de travail, mais un visite d'État, c'est quelque chose d'autre. Et c'était vraiment, c'était bien choisi de choisir le président français.
Pierre Vibon, sur le contexte de politique intérieure, c'est intéressant tout de même de faire un parallèle entre la situation des deux leaders politiques. On va regarder la une de The Economist, qui n'est vraiment pas flatteuse pour le pauvre Keir Starmer, qui est en fait cool, vous allez le voir, cette une. Regardez, The Tragedy of the Labour, donc la tragédie du Parti travailliste, on le voit couler dans les eaux. On sait qu'Emmanuel Macron est très affaibli aussi en politique intérieure avec sa dissolution. C'est intéressant, est-ce qu'on peut faire une sorte de parallèle cette rencontre finalement, parce qu'il va voir Keir Starmer jeudi, il va y avoir ce sommet donc vraiment axé sur la sécurité. C'était peut-être un contexte intéressant pour ces deux dirigeants de se voir à ce moment-là.
C'est vrai, même si le parallèle s'arrête un peu quand on regarde les institutions. Starmer, le Premier ministre britannique, a quand même encore aujourd'hui une large majorité à la Chambre des communes, ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron, même s'il est le président et pas le Premier ministre.
Donc c'est la presse qui ne l'aime pas vraiment, alors, Keir Starmer, hein, parce que même des économistes...
C'est peut-être oui, mais la vérité, c'est que Starmer se trouve dans une situation notamment économique extrêmement, extrêmement difficile, et c'est un peu la même situation en France également, et c'est là où le parallèle a plus de sens.
Vous êtes d'accord, Catherine Mathieu, justement, sur ce contexte politico-économique?
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de proximité. Et par rapport à la majorité, j'ajouterais qu'un élément particulier pour Keir Starmer, qui effectivement a une forte majorité au Parlement britannique, c'est qu'un certain nombre de mesures qu'il a décidé de mettre en place depuis qu'il est arrivé il y a un an maintenant, ne sont pas celles que souhaite une majorité des parlementaires du Parti travailliste. Et donc, en fait, il s'est trouvé dans une situation difficile par rapport à l'allocation de chauffage qui était donnée aux retraités, qu'il a voulu supprimer, mais un certain nombre de députés travaillistes n'étaient pas d'accord. On a eu récemment la même chose avec les allocations pour les personnes handicapées, que le gouvernement souhaitait fortement réduire, et il a dû revenir sur ses décisions parce que sinon il y avait une rébellion en fait d'une majorité des travaillistes au Parlement. Donc il n'est pas dans une situation facile, Keir Starmer, et on dit aussi souvent, on le compare aussi souvent à Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est qu'en fait dès qu'il se déplace à l'extérieur, il y a beaucoup de dessins dans la presse britannique qui vont dans ce sens et qui montrent que dès que Keir Starmer sort du pays, et bien là ça devient beaucoup plus facile de représenter le Royaume-Uni par rapport à l'Ukraine, par rapport aux États-Unis. Mais à l'intérieur du pays, il est dans une situation très difficile au niveau du Parlement, un peu comme celle d'Emmanuel Macron.
Monsieur l'ambassadeur.
Oui, et en réalité, leur problème est plus ou moins le même, c'est-à-dire comment réduire les dépenses publiques et revenir à une forme de stabilité budgétaire. Dans deux pays où la croissance est faible et a du mal à repartir. Cela dit, Emmanuel Macron est président, il a toute une série de pouvoirs que n'a pas Keir Starmer et il joue de cela. Il n'est pas obligé tous les jours d'aller affronter à l'Assemblée nationale une opposition. Et ça fait quand même une vraie différence.
Et lorsqu'il est à l'international, bien sûr, c'est confortable pour lui, pour Emmanuel Macron.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, et d'ailleurs, on voit bien qu'il en joue à fond, parce que c'est le domaine où, pour le moment, il s'exprime le plus pour montrer...
Le fameux domaine réservé du président. On va écouter, justement, Emmanuel Macron devant les parlementaires britanniques.
C'est pour cela que nous avons lancé ensemble, avec vous, Monsieur le Premier ministre, cette coalition. Comme un signe que les Européens n'abandonneront jamais l'Ukraine. Jamais. Et qu'importe les décisions prises ailleurs, nous lutterons jusqu'à la dernière minute pour avoir un cessez-le-feu afin de commencer les négociations pour construire une paix robuste et durable. Car c'est notre sécurité et principes communs qui sont en jeu en Ukraine.
Which are at stake in Ukraine.
Catherine, donc c'était le début du discours, vraiment il a appuyé sur l'Ukraine, on sait que c'est vraiment un sujet qui rapproche la France et le Royaume-Uni, il a parlé de Gaza aussi, qu'il faut cesser le feu à Gaza, il faut reconnaître l'État de Palestine, et là aussi les deux pays sont sur la même longueur d'onde.
Oui, à peu près, sauf que Keir Starmer n'a pas parlé ouvertement de reconnaître l'État palestinien comme l'a fait Emmanuel Macron. Donc il va un peu plus loin dans ce domaine. Et en termes de politique domestique, ça serait plus compliqué pour Keir Starmer parce qu'il est dans une position d'un parti de gauche où il doit se montrer ferme par rapport au éventuel déraillement des activistes pro-palestiniens. Donc son gouvernement veut montrer un peu la main forte là-dessus. Et c'est une ligne peu confortable pour lui parce qu'il a notamment des députés de gauche de son parti qui seraient effectivement d'accord pour un cessez-le-feu immédiat sans condition et la reconnaissance d'un État palestinien. Mais il doit essayer de ne pas exclure des électeurs de centre ou de droite. Donc pour Keir Starmer, il est moins à l'aise sur ce terrain-là. Mais sur l'Ukraine, effectivement, là, on voit que la France et la Grande-Bretagne se mettent coude à coude et pour essayer de mener cette coalition de volontaires pour l'Ukraine, que pour l'instant, on ne voit pas très bien les contours, mais c'est une idée qu'ils veulent avancer tous les deux.
Quentin Peel, sur l'Ukraine, donc il est revenu sur cette coalition de volontaires, c'est vraiment ce qui les rapproche. Il va y avoir ce sommet sur la défense de Keir Starmer et d'Emmanuel Macron jeudi. On peut dire que cette coalition de volontaires, elle va se mettre en place, le Royaume-Uni était vraiment, dès le début de la guerre, très pro-ukrainien. Donc là, Emmanuel Macron, je veux dire, c'est facile pour lui, là.
Oui, je crois bien. Et là, c'est la coopération entre la France et la Grande-Bretagne est très étroite. C'est différent dans le Moyen-Orient, justement sur ce point de reconnaître l'État de palestinien. Ça, c'est un peu trop loin en ce moment pour Starmer. Mais ça pourrait être très intéressant si vraiment, en soulignant ce point, si Emmanuel Macron va faire bouger un tout petit peu plus le gouvernement britannique, parce qu'il souligne parce que vraiment, on doit avoir la même attitude vers un cessez-le-feu en Ukraine et en Gaza. Et en ce moment, il voit qu'il y a une différence. Alors, peut-être que le gouvernement britannique pourrait bouger là.
Vous pensez que ça pourrait lui donner un petit... ça pourrait l'encourager en tout cas à bouger sur le Proche-Orient?
Oui, je crois bien. Et parce que vraiment, dans le Parti socialiste ici, il y a une majorité claire qui veulent faire exactement ce que veut le président français. Et c'est ça. Je voulais souligner un tout petit peu le problème pour Starmer avec son parti politique, parce que il a cette grande majorité au Parlement et justement, avec le système britannique, une grande majorité est un grand danger pour un chef de gouvernement comme Starmer. Alors, parce qu'il y a beaucoup de gens dans son propre parti qui vont voter contre lui parce que la majorité est tellement grande qu'ils ne croient pas que ça va faire tomber le gouvernement. Et ça, c'est son problème. Il doit toujours regarder derrière lui si le parti socialiste est avec lui.
C'est intéressant, monsieur l'ambassadeur. Finalement, une grande majorité ne lui garantit pas une marge de manœuvre très forte à Keir Starmer parce qu'ils sont divisés et en France, il n'y a pas de majorité du tout. Et alors là, c'est l'immobilisme. Donc,
c'est peut-être encore pire.
C'est pire en France, non?
Non, c'est vrai. Lorsqu'ils ont présenté justement cette volonté de couper dans les dépenses sociales, notamment l'allocation.
C'est quand même étonnant pour le chef du Parti travailliste de proposer tout de même de couper dans les dépenses sociales de cette manière-là.
C'est vrai, mais ils ont un vrai problème là. Et là, à leur grande surprise, ils ont découvert que l'opposition au sein de leur propre parti était très forte et qu'ils risquaient de ne pas avoir les voix suffisantes, d'où le recul qu'ils ont opéré.
Ils voulaient couper les allocations aux handicapés, tout de même. Donc de la part d'un gouvernement travailliste, c'est un peu...
Ce gouvernement... À partir de là, quand vous avez reculé, vous avez montré une faiblesse et c'est ce handicap-là que l'économiste met en avant, c'est que c'est difficile à partir de là, sur le plan politique, de récupérer après quelque chose comme ça.
Oui, on peut peut-être rappeler que ce gouvernement est arrivé au pouvoir après 14 ans d'années de conservateurs qui avaient mené des politiques d'austérité souvent très dures et que l'intitulé du programme des travaillistes c'était le changement. Et peu de temps après l'arrivée de ce gouvernement, le programme économique, en particulier de la ministre de l'économie, de Rachel Reeves, reposait beaucoup sur l'espoir du retour de la croissance au Royaume-Uni et de dire on va avoir de la croissance, on va relancer la croissance et on va avoir de ce fait des recettes fiscales et on va pouvoir continuer à financer les dépenses publiques. Or, la croissance, pour l'instant, n'est pas véritablement au rendez-vous. Comme vous le disiez tout à l'heure, on est à peu près dans la même situation en France et au Royaume-Uni. Et le gouvernement britannique s'est donné des règles budgétaires plutôt strictes. Donc, la ministre des Finances s'est fixée un objectif de réduction des déficits et de la dette publique. Et donc, elle se retrouve aujourd'hui dans la situation où, sans croissance, avec si elle veut respecter ses règles budgétaires, et alors qu'elle s'est engagée par ailleurs à ne pas augmenter la fiscalité, elle doit absolument réduire les dépenses. Et donc, qu'est-ce qui est plus simple à réduire? Et bien, c'est ce type de dépenses sociales.
Plus simple en théorie.
Plus simple en théorie, parce qu'en fait, ça représente assez... En théorie, on a vu en pratique, effectivement, que ça fonctionnait très rapidement, pas. À la fois les parlementaires, mais aussi, il y a eu énormément de manifestations devant le Parlement britannique pour dire qu'il ne fallait pas réduire ces prestations. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, le gouvernement britannique se trouve dans une situation où il devient très impopulaire, en partie pour ces mesures antisociales, pourrait-on dire, qu'il essaye de prendre pour réduire les déficits.
Et sur la défense, il va y avoir, Catherine, ce sommet franco-britannique, donc jeudi, Keir Starmer et Emmanuel Macron, qui vont être ensemble, en fait, sur un site à Northwood pour une réunion des pays de cette fameuse coalition des volontaires. Ils vont être en visioconférence. Alors, il y a 18 dirigeants, la Belgique, la Bulgarie, l'Italie, l'Islande, les Pays-Baltes, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, la Norvège, la Norvège, ça en fait 18, donc c'est important, c'est au-delà de l'Union européenne, me semble-t-il, oui. Et il y a aussi le Japon et la Nouvelle-Zélande, c'est ça, donc c'est vraiment au-delà de l'Union européenne, et ils veulent proposer donc un cadre pour la paix en Europe et l'envoi potentiel de troupes en Ukraine. Et ça, c'est vraiment l'idée qu'ils veulent solidifier tous les deux, Emmanuel Macron et Keir Starmer, avec en plus ce symbole de la former en visioconférence jeudi.
Oui, avec Volodymyr Zelensky, aussi le président ukrainien, en visio aussi avec eux. Donc, à ce stade, c'est une proposition. On a eu quelques nouvelles, mais ça dépend d'un éventuel cessez-le-feu en Ukraine. Et on a vu, on est loin d'arriver là en ce moment. On a vu que Vladimir Poutine n'a pas l'air de vouloir céder quoi que ce soit, même face à Donald Trump. Donc, on ne comprend pas très bien comment cette coalition de volontaires pourrait prendre forme concrètement. Alors peut-être là, on va en apprendre un peu plus sur le nombre de, éventuellement de...
Parce qu'elle pourrait être plus large même que 18 pays.
De soldats. Donc là, est-ce qu'on pourrait élargir ça? En quoi consistera-t-elle? D'hommes, de financement. Et même quand on va en Ukraine sur le terrain et on parle aux gens de qu'est-ce qu'ils pensent de cette coalition de volontaires, cette force de rassurance. Mais ils disent, mais en fait, sauf s'ils vont se déplacer vraiment vers les lignes de front, qu'est-ce qu'ils vont bien faire? Donc les Ukrainiens avec qui j'ai pu parler, j'ai pu m'entretenir lors des missions en reportage, sont très sceptiques. Et je pense qu'il y a quand même, en ce moment même, très peu d'espoir que cette force de rassurance puisse aboutir à quelque chose de vraiment concret, quand on n'a pas la moindre idée en ce moment de quel type de cessez-le-feu pourrait être négocié entre essentiellement Donald Trump et Vladimir Poutine.
Parce que l'idée, monsieur l'ambassadeur, c'est qu'elle soit présente une fois qu'il y a un cessez-le-feu, cette coalition des volontaires, pour garantir justement la sécurité de l'Ukraine face à la Russie. D'ailleurs, pour l'instant, Poutine n'en veut pas du tout de soldats européens en Ukraine, mais c'est okay. Ça l'idée. Et il continue d'ailleurs, à la travailler, cette idée-là. Donc,
c'est pour ça qu'il y a une contradiction qui est inscrite dans le cessez-le-feu lui-même et dans cette force de coalition. C'est que Poutine n'a cessé de dire qu'il y avait, en tout cas pour lui, deux conditions préalables à tout cessez-le-feu. Que l'Ukraine ne puisse pas en profiter pour se réarmer. Et deuxièmement, les alliés occidentaux continuent à apporter leur soutien militaire à l'Ukraine. Alors que la coalition, c'est précisément cet objectif-là, d'apporter un soutien à l'Ukraine. Donc on voit bien qu'il y a un blocage. Il demeure que, et c'est là où peut-être je serais un tout petit peu plus optimiste que ma voisine, c'est que dans cette coalition des volontaires, il y a d'autres choses que la force de réassurance. Il y a aussi tout ce qui peut tourner autour de la formation de l'armée et le renforcement de l'armée ukrainienne. Il y a tout ce qui tourne autour de l'aide à la production d'équipements militaires pour l'Ukraine. Et ça, ça peut déjà se faire et ça a déjà commencé à se faire.
Et l'Ukraine pourrait y entrer dans cette coalition ?
Elle en est le bénéficiaire, donc c'est plutôt une force d'une coalition des volontaires qui vient en soutien de l'Ukraine. Il faut d'ailleurs ajouter un élément qui est intéressant, c'est qu'entre la France et la Grande-Bretagne est présente en Ukraine sur le plan militaire depuis bien plus longtemps que les Français. La Grande-Bretagne est là depuis ce qu'on appelle souvent la première guerre d'Ukraine, celle de 2014-2015 avec l'annexion de la Crimée et les deux régions du Donbass qui avaient pris leur autonomie et leur indépendance. Et donc, la Grande-Bretagne a une bonne connaissance ce que sont les forces militaires ukrainiennes. Et de ce point de vue-là, donc, elle est très utile dans cette coalition pour travailler étroitement avec les Français. La vraie difficulté à l'heure actuelle, c'est qu'avec le temps qui passe et l'absence de cessez-le-feu, beaucoup de participants à cette coalition des volontaires commencent un peu à se fatiguer. Et le risque est que cette coalition perde un peu de son élan à mesure qu'on avance. D'où la réunion de jeudi, qui précisément vise à requinquer un peu les énergies.
Requinquer les énergies. Vous êtes d'accord, Quentin Peel, elle vise à cela, requinquer les énergies, cette réunion de la coalition des volontaires. Comment la perçoit-on au Royaume-Uni? Et d'ailleurs, pourquoi les Anglais, les Britanniques ont été tout de suite très proches à soutenir l'Ukraine dès le début? C'est quand même une interrogation.
Oui, c'est intéressant, c'est une question intéressante, parce que vraiment, je me suis rendu compte il y a quelques années, justement, de 2014, quand ça a commencé dans l'est de l'Ukraine, que les Britanniques n'étaient pas très conscients du danger là-bas. Moi, j'étais en Allemagne en ce moment-là, et en Allemagne, c'était beaucoup plus clair que le danger avec... Il fallait trouver une solution pour résoudre toutes les relations avec la Russie. Et justement, les Britanniques étaient un peu loin. Mais quand même, je crois qu'ils ont vu très vite que c'était une question pour l'OTAN, pour la survie de l'OTAN. Et ils ont reconnu que peut-être les États-Unis aussi, et c'était très important de les soutenir en Ukraine. Et peut-être que la France et la Grande-Bretagne étaient tous les deux pays un peu loin de l'Ukraine au commencement. Mais justement, les Britanniques ont compris qu'il fallait se mêler là.
C'était donc stratégique ou il y avait du cœur aussi? Il y avait un parallèle historique avec la Deuxième Guerre mondiale ou pas?
C'est justement, alors, c'est clair que quand Boris Johnson était Premier ministre, lui, il était très dur et très fort pour l'Ukraine. Mais ça, c'est plus tard, ça, c'est beaucoup plus tard. Et justement, le mémoire pour la Deuxième Guerre mondiale, je ne crois pas que c'était quelque chose comme ça. C'était peut-être une compréhension britannique que, justement, la situation en Ukraine avec la Russie, c'était une situation, la fin de l'Empire russe. Et les Britanniques ont compris qu'il y a toujours des problèmes énormes avec ces fins de l'Empire. Et justement, parce que nous l'avons souffert, la France aussi, parce que nous tous savons que le problème là, c'est que la Russie ne veut pas reconnaître que l'Empire est fini.
Mathieu, peut-être rebondir d'ailleurs, parce qu'on parle évidemment d'économie de guerre, 3,5% de PIB pour les dépenses militaires, et ça devrait arriver jusqu'à 5% du PIB si on y met aussi les dépenses de sécurité. Ça, c'était l'annonce des Européens à l'OTAN. Alors, les Britanniques, c'est un petit peu moins, quand j'ai regardé les chiffres, c'est plutôt 2% de PIB.
Oui, mais c'est
toujours en raison de ces contraintes budgétaires, même si la France en a aussi. Mais...
Oui, je pense que là aussi, en termes de dépenses militaires rapportées au produit intérieur brut, la France et le Royaume-Uni étaient à peu près au même niveau. Et on a vécu pendant des années en se disant qu'il y avait l'OTAN, qu'on pouvait ne pas avoir trop de dépenses militaires dans chacun de nos pays. Et c'est vraiment que récemment, avec cette forte pression mise par le président Trump de dire il faut que vous dépensiez davantage, et en particulier dans le cadre de l'OTAN, que progressivement les pays européens se sont dit mais oui, on va dépenser davantage. Et donc la France prend ce chemin, le Royaume-Uni aussi. Alors pour l'instant, effectivement, il y a cette équation budgétaire qui est toujours difficile à résoudre. Alors parmi les premières mesures décidées par les Britanniques, il y a eu le fait de réduire l'aide au développement pour pouvoir financer une hausse des dépenses militaires. Donc on voit qu'on change vraiment d'univers. On n'est plus du tout dans la même situation qu'il y a quelques années. Et aujourd'hui, les Britanniques s'engagent vraiment aussi dans davantage de dépenses militaire. Je pense qu'il y a aussi, d'un point de vue peut-être un peu plus pragmatique, du côté des Britanniques, un peu comme des Français, le fait de dire on dispose d'une industrie de défense chez nous, on peut produire. Si on produit, ça fera des emplois, ça fera de la croissance, ce qu'on appelle une économie de guerre. Donc là aussi, on change d'univers par rapport à ce qu'on a connu au cours des dernières années. Et les Britanniques espèrent notamment que dans le cadre des mesures qui vont être décidées, ou qui commencent à être décidées par l'Union européenne, les aides au financement, au réarmement, pouvoir exporter des armes qui seront utilisées à l'intérieur de l'Union européenne. Hein, parce qu'on a parlé à l'instant de l'Ukraine, mais parmi les pays de l'Union européenne, bien sûr la Pologne, les pays baltes, qui sont très très proches géographiquement de la Russie, sont très inquiets, sont de plus en plus inquiets sur le fait que leurs frontières seront respectées, les Finlandais aussi. Et on sait que ces pays, traditionnellement, utilisent plutôt des armes produites aux États-Unis. Donc il y a une question aussi du point de vue de la France et du Royaume-Uni de dire on se repositionne en tant que fabricant et vendeur d'armement.
Avec une histoire peut-être de préférence européenne, monsieur l'ambassadeur, même si on sait, parce que Londres voudrait rejoindre ce programme d'achat en commun d'armement, donc le SAFE, qui prévoit un prêt de 150 milliards d'euros pour financer en commun des projets et des armes en Europe. Donc en fait, on essaierait de bifurquer vers un achat européen, des achats européens, plutôt qu'acheter américain, qui est quand même aujourd'hui largement majoritaire.
C'est-à-dire que face aux menaces répétées de Donald Trump de se retirer de l'OTAN et de se retirer de l'Europe, il est évident que si les Européens veulent faire cet effort dont on parlait en matière de renforcement de leur défense, il faut qu'ils soient capables à terme de pouvoir agir en pleine souveraineté et de pouvoir acheter des armements qui sont européens. Il faut ajouter à ça, et on a tendance parfois à l'oublier, que quand on achète des équipements américains, ça vient avec des contraintes américaines. On ne peut les utiliser qu'avec le feu vert de l'Amérique.
Comme ça, on l'a beaucoup dit d'ailleurs, parce que personne ne le savait vraiment, mais exactement. Ça fait partie des contraintes.
Et donc, dans ce programme SAFE dont vous parlez, l'objectif est clairement posé, qu'à terme, l'argent européen devra aller vers des programmes où les Européens seront majoritaires dans la conception des nouveaux armements et dans leur utilisation. Et donc, c'est ça qui est en jeu.
Mais il va falloir changer de logiciel quand même. Voilà. Là,
parce que... et puis, ça prend du temps. Ça se fait pas. On ne monte pas une industrie moderne de défense du jour au lendemain. Et c'est bien pour ça que beaucoup d'Européens sont très soucieux dans cette transition de faire en sorte de ne pas perdre les Américains immédiatement, parce qu'on a encore besoin d'eux.
Mais justement, est-ce que ce n'est pas un signe, Catherine Norris-Trent, finalement, là, d'inviter Emmanuel Macron pour montrer à Trump qu'il n'est pas le premier, mais en même temps, de lui faire passer le message qu'ils vont réarmer, qu'ils vont justement faire en sorte d'arriver jusqu'à ce 2%, 3% de PIB d'armement pour justement pouvoir négocier ensuite avec les États-Unis? Est-ce que ça ne serait pas un peu ça le projet des Britanniques?
Excusez-moi, oui, je pense que c'est un peu le message derrière tout ça, c'est de montrer que oui, on fait quelque chose, on n'est pas en train d'attendre les Américains. Ils veulent montrer à l'administration Trump, à J.D. Vance et tous ces critiques au sein de l'administration, que l'Europe n'est pas en train de ne rien faire, qu'ils s'organisent entre eux. Donc à la fois, c'est un message au public britannique pour dire, écoutez, on se rapproche aussi de nos voisins, qui plus que l'impopulaire Trump, mais aussi c'est un message, oui, mondial pour montrer que l'Europe s'organise, l'Europe se tient prêt, l'Europe prend ses choses très au sérieux.
Oui, puis surtout l'Europe s'organise, mais l'Europe s'organise du côté britannique comme du côté français, oui. En gardant ou en essayant de développer une souveraineté. Parce que derrière le message de Donald Trump aussi, qui dit aux Européens, il faut que vous dépensiez davantage sur le plan militaire, ne comptez pas toujours sur les Américains pour vous défendre, augmentez vos dépenses militaires jusqu'à 5% du produit intérieur brut. La phrase suivante, c'est acheter de l'armement américain. Et donc, le problème, aujourd'hui, pour certains pays de l'Union européenne, de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est ce qu'ils utilisent actuellement, ils continuent de l'acheter.
L'Allemagne,
mais,
par exemple.
L'Allemagne, la Pologne, mais pour la France ou le Royaume-Uni, et je pense que là, dans les discussions qui vont avoir lieu après-demain, dans le cadre du sommet franco-britannique, ça aura une place importante, essayer de développer des coopérations franco-britanniques où on développe une souveraineté européenne, ça sera un élément important.
Vous êtes d'accord, Quentin Peel? Je vous donne la parole juste après. Les Britanniques se donnent les moyens, en parlant de 2% de PIB seulement sur les dépenses militaires, ils vont avoir les moyens justement de cet affichage politique?
Ça va être très difficile parce que vraiment ils parlent de « ok, nous arrivons vers ce 3,5 ou même 5% du PIB sur la défense vers 2035 ». Alors c'est très loin. Ça va être difficile. Mais je voulais quand même souligner quelque chose parce que je trouve que c'est un moment très important pour cette relation franco-britannique et justement à cause du problème Trump. nous avons tous les deux le problème Trump. Et c'est un problème pour la sécurité de l'Europe, et c'est un problème pour tout le monde que nous avons construit depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le monde de l'ONU, le monde des institutions internationales, et que Donald Trump ne veut pas suivre. Et justement, c'est Emmanuel Macron au Parlement, il a souligné le problème sur la question du commerce, la question des tarifs, que Trump ne veut pas suivre du tout les lois du World Trade Organization, l'Organisation mondiale de commerce. Et aussi, il a souligné, c'est une bonne ligne, il a souligné l'importance de ces mots « order, order » que dit toujours le président du Parlement britannique, que la Grande-Bretagne et la France doivent dire au monde « order, order ». Et c'est justement Donald Trump qui ne suit pas l'ordre. Et c'est très important, surtout, je crois, pour la Grande-Bretagne, parce qu'après Brexit, nous avons quitté la première institution européenne parce que nous croyons en l'OTAN. Et justement, Donald Trump, peut-être, va sortir de l'OTAN ou au moins affaiblir l'OTAN. Et ça, c'est très problématique pour les Britanniques.
Vous voulez réagir, monsieur l'ambassadeur, après on va passer à la question de l'immigration, qui est la question qui fâche.
Très vite. En fait, ce que dit Quentin Peel, c'est la Grande-Bretagne et la France veulent être les adultes dans la pièce qui préserve l'ordre mondial. Et pour cela, en effet, il faut avoir le courage de peu à peu s'éloigner des États-Unis qui ne sont pas du tout dans cet état d'esprit. Le problème, c'est, compte tenu de la relation spéciale à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure avec les États-Unis, la Grande-Bretagne est-elle prête à faire ce grand saut ? Et je reviens à la discussion qu'on avait tout à l'heure à propos de la reconnaissance de la Palestine, qui se situe, comme vous le savez, dans cette grande conférence que Macron organise avec les Saoudiens. Les Américains sont très hostiles à cette conférence. Ils ne veulent pas en entendre parler, en réalité. Et on voit bien que la Grande-Bretagne est très embarrassée entre cette initiative, d'un côté, et le rejet par l'Amérique de cette idée de reconnaissance de la Palestine. D'où exactement ce que l'on a vu, c'est-à-dire une Grande-Bretagne qui préfère attendre pour le moment. Et c'est l'un des nombreux points qu'on va voir dans les mois qui viennent, c'est jusqu'où la Grande-Bretagne est-elle prête à s'éloigner de l'Amérique. Et c'est voilà, pas tout à fait sûr qu'elle va dans ce sens.
Elle peut aller jusqu'à la rupture ou pas. En tout cas, il y a un autre sujet qui est celui de l'immigration, le sujet qui fâche donc entre la France et le Royaume-Uni, puisque la France ne parvient pas à stopper ces bateaux pleins à craquer de migrants qui veulent traverser la Manche en direction de l'Angleterre. Depuis le début de l'année, 20 000 migrants ont rejoint l'Angleterre en traversant la Manche. C'est une augmentation de 48% par rapport à la même période l'an dernier. On va regarder un extrait du reportage qu'ont fait nos consoeurs Pauline Godard et Claire Pacalin.
Sur ces images tournées près de Calais, on voit des forces de l'ordre rentrer dans l'eau pour tenter de stopper une embarcation. Le Royaume-Uni met la pression sur la France pour qu'elle renforce ses mesures et que des interventions aient lieu en mer. Paris envisagerait de modifier ses règles pour pouvoir intercepter les embarcations jusqu'à 300 mètres des côtes. Parfois, les gendarmes font des découvertes à quelques centaines de mètres de la plage près de Calais, un campement sauvage. Les migrants attendaient cachés dans un bois. Ils voulaient être au plus près de la mer pour pouvoir embarquer le plus vite possible.
Nous voulons vivre librement. Ils ne devraient pas nous en empêcher, mais plutôt nous faciliter l'accès au Royaume-Uni.
Une fois leurs affaires empaquetées, les voilà de retour sur la route. Pendant quelques heures, ils vont marcher escortés par les gendarmes. Leur objectif, veiller à ce qu'aucun autre campement sauvage ne voit le jour. Alors vous allez où ?
On ne sait pas. On suit le groupe.
Certains de ces migrants ont tenté la traversée de la Manche, mais ils ont été stoppés sur la plage par des gendarmes.
On a gonflé le bateau et les gendarmes sont venus avec un couteau et c'était fini. Oui, ils ont donné des coups de couteau dans le bateau. Ce n'est pas bien.
Malgré les efforts de la police française, le nombre de migrants arrivés sur les côtes britanniques a augmenté de 48% entre janvier et juin par rapport à l'année dernière. Les forces de l'ordre font face à leur détermination, convaincus qu'une vie meilleure les attend de l'autre côté de la Manche.
Quentin Peele, je voudrais vous faire réagir parce qu'il y a eu aussi ces images de la BBC qui montraient justement les forces de l'ordre françaises qui essayaient d'empêcher les bateaux de partir. Et puis cette une du Daily Mail qui date d'aujourd'hui, rendez-nous nos 770 millions de livres, 771 millions de livres à Macron s'il vous plaît, parce que ce sont justement, c'est le montant qu'a donné le Royaume-Uni à la France pour lutter contre cette immigration clandestine. Là on voit que c'est le sujet qui fâche, on le voit dans toute la presse, puisque même la presse, le Times montre aussi, dit voilà, la France ne parvient pas à lutter contre l'immigration clandestine. Donc ça va être la question qui fâche entre les deux, ou est-ce qu'ils vont mettre en avant un certain nombre de solutions? C'est très compliqué.
C'est très compliqué, justement, et Emmanuel Macron était très prudent à ce sujet dans le Parlement. Alors c'est important pour Starmer parce que c'est le thème du parti réforme du parti de Nigel Farage. Justement, l'immigration est un thème énorme et aussi pour le parti conservateur. Alors ce que vous voyez dans la presse, dans le Daily Mail, c'est un journal très conservateur. Mais justement, le problème, c'est que je crois que la France veut bien aider les Britanniques à restreindre ces milliers de réfugiés de traverser la Manche. Mais si on arrive à un accord ce jeudi, et je m'en doute, il y a un problème parce qu'il y a au moins 5 pays de l'Union européenne, y compris l'Italie, l'Espagne, la Grèce, qui sont opposés parce qu'ils trouvent que si on arrive à un accord où on renvoie les réfugiés de la Grande-Bretagne en France, ces mêmes réfugiés pourraient être renvoyés en Italie, en Grèce ou même en Espagne par la France. Et voilà, tout de suite, c'est devenu un problème de l'Union européenne et pas seulement un problème bilatéral entre la Grande-Bretagne et la France. C'est à cause de ça que ça va durer.
Ça va durer, vous pensez aussi, Catherine Norris-Trent, il y a ce retour des migrants, alors on parle du « one in, one out », ça c'est dans toutes les unes de la presse britannique, c'est-à-dire s'il y en a un qui rentre, il y en a un qui doit sortir. C'est l'immigration zéro qui est affichée par le Royaume-Uni.
Ça, c'est ça que souhaiterait le gouvernement de Starmer. Il voudrait bien que les Français signent cet accord en disant « ok, on prendra, accepteront des gens de Calais qui ont des liens prouvés de la famille, etc. » ou une possibilité réelle de demande d'asile qui va aboutir au Royaume-Uni, mais on doit renvoyer des personnes qui sont arrivées par ces small boats, ces petits bateaux qui sont devenus vraiment un problème politique pour n'importe quel gouvernement britannique soit au pouvoir. On a vu Rishi Sunak, il a fait de sa campagne là-dessus. Nigel Farage, il fait vraiment la fête avec ça. C'est un thème pour lui de continuer à aller sur les plages pour dire un autre bateau est arrivé. Donc c'est un énorme problème médiatique. Le problème, c'est que, évidemment, c'est très compliqué à faire ça. Emmanuel Macron, dans son discours, il a parlé 20 minutes sur la sécurité. Il en a dit 2 phrases sur l'immigration. Si on lit les journaux britanniques, on a l'impression que ça va être à la une de ce sommet. Ça va être sur la table parce que les Britanniques veulent vraiment montrer qu'ils font quelque chose. Mais pour les Français, ce n'est clairement pas la priorité. Ils sont un petit peu plus embêtés par ceux qui peuvent vraiment réellement faire.
Oui, parce qu'en fait, sortir de son chapeau des nouvelles mesures, là, en 2 jours,
c'est... Oui, oui, et puis ça a été très bien résumé par Quentin Peele. Ces personnes qui essayent de rejoindre le Royaume-Uni, ces immigrés clandestins, sont arrivés par un autre pays de l'Union européenne. Et donc, effectivement, la France se trouve dans la situation où elle est sur le passage géographiquement de ces immigrés qui souhaitent aller au Royaume-Uni. Donc, la formule la plus simple, ce serait de dire on applique les règlements qui sont en vigueur à l'intérieur de l'Union européenne. Mais effectivement, les pays qui accueillent déjà beaucoup d'immigrés aux portes de la Méditerranée ne souhaitent pas voir revenir ces immigrés chez eux. Et donc, pour la France, c'est une situation assez insoluble. Hein. On a aussi ce côté très important, très humain.
Elle va être renvoyée auprès du ministre de l'Intérieur. Je pense que c'est ça que souhaite Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Catherine Mathieu, Catherine Norris-Trent. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Pierre Vimont, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Quentin Peele, d'avoir été avec nous en direct de Londres. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. Vous retrouvez sur les réseaux sociaux également. Podcast, à demain.